Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, les nouveaux chiens de garde.
Flight number 2, arriving from New York.
Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. À ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nizan. Nizan, c'est un jeune homme en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne les cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, qui meurent assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Les grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours 20 ans de trop au moment où il faudrait pouvoir dire aux jeunes qui le leur demandent qu'il faut agir et comment agir. Et Nizan, eh bien, c'est quelqu'un qui est là pour réveiller. C'est pour ça que je vous conseille de le lire. Et peut-être que vous me direz, ce jeune homme que vous nous avez présenté, pourquoi est-il si désagréable avec nous? Eh bien, c'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire. Des écrivains bien élevés, nous n'en manquons pas. Mais ce qu'il nous faut, ce qui nous manque, ce sont des écrivains désagréables.
Voilà, ainsi commencent les nouveaux chiens de garde, le film qui sort mercredi 11 janvier 2012 sur tous les écrans de France et de Navarre. Et l'homme qu'on vient d'entendre, c'est Pierre Desgraupes. C'était en 1967 et c'était à la télévision française qui, à l'époque, ne comptait qu'une seule chaîne. Et c'était à une heure de grande écoute. Pierre Desgraupes s'adressait à tout un large public présentant ce livre de Paul Nizan, aux éditions Maspero d'ailleurs à l'époque, à une heure, j'insiste, de grande écoute. Et c'est à partir de ce livre de Paul Nizan, « Les chiens de garde », que Serge Halimi, en 1997, publie un petit livre qui s'intitule « Les nouveaux chiens de garde ». La cible de Nizan, c'était les intellectuels. Ceux de Halimi en 97, c'est les médias. On va dire les médias, il va nous préciser ça bien évidemment, les journalistes, les médiacrates. Je me demande si le mot existait d'ailleurs à l'époque, Serge. En tous les cas, on va parler de tout ça, on va parler de ce film. C'est quand même un phénomène assez intéressant que cet esprit, disons, cette guérilla conduite depuis des années par un groupe d'intellectuels, de cinéastes, de journalistes, il y en a dedans, d'économistes, on en a un avec nous, parviennent pour une fois à accéder à un large public à travers ce film. Alors, j'ai évoqué Serge Halimi, il y a avec nous Gilles Balbastre qui est l'un des deux réalisateurs, l'autre c'est Yannick Kerguat, et puis on a avec nous aussi Jean Gadret, un économiste bien connu des auditeurs de la Basse J'y suis, puisqu'on l'a entendu dans les reportages récents de François Ruffin, et puis on a alors un journaliste qui est très loin, qui est au placard, dans un placard quelque part en Ariège, et qui s'appelle Michel Naudy. Vous allez entendre sa voix, Michel Naudy, ça va?
Oui, ça va, la neige a fondu.
Voilà, la neige a fondu.
Il y a plus de neige à 1200 mètres d'altitude face à l'Espagne.
Voilà, donc on a des indications précises et des informations précises. Michel Naudy sera donc au téléphone. C'est un des personnages de ce film qui en compte pas mal. Alors, Serge Halimi, commençons par vous, puisque vous êtes l'instigateur de toute cette histoire.
Oui, le livre de Nizan en 1932 ciblait essentiellement les professeurs de philosophie de la Sorbonne, qui avaient donc un public relativement restreint, puisqu'à l'époque il y avait très peu d'étudiants en France dans les années 30. Et moi j'ai ciblé des gens qui avaient une influence, me semble-t-il, au moins aussi importante, puisqu'il s'agissait avec les nouveaux chiens de garde de ceux qui pensent l'information, de ceux qui mettent en scène l'idéologie. Donc il y avait ces 30 personnes qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup changé. C'est l'un des motifs de tristesse qu'on pourrait avoir, se dire 15 ans plus tard, ils sont toujours là, les mêmes. C'est un livre qui malheureusement n'a pas beaucoup vieilli. les mêmes personnages, les mêmes travers, le même pouvoir de l'argent dans les médias, peut-être même un peu plus prononcé, un peu plus caricatural qu'il y a 15 ans. La même complaisance des journalistes dominants envers l'argent, envers la publicité, les mêmes copinages sans foi ni loi qui corrompent la critique, la même pensée de marché.
Alors, quand même, il faut rappeler quelque chose, c'est que ce livre avait eu énormément de succès. C'était dans la petite collection Raison d'agir. C'était très modique. Le prix du livre n'était pas cher du tout. Ça a facilité peut-être le succès, mais enfin, on est arrivé à 250 000 exemplaires vendus. C'est quand même un phénomène, avec une campagne médiatique de votre part extrêmement réservée, on peut dire réduite.
Oui, très, très réduite.
très réduite.
Je crois.
Comment analyser ce succès? Il faut rappeler le livre de Pierre Bourdieu
qui avait précédé
sur la télévision, qui avait fait grand bruit à l'époque. Est-ce que ça inaugure d'une critique des médias ou bien est-ce que ça s'inscrit dans une critique traditionnelle des médias? À chaque fois, on dit oui, mais enfin, ces gens-là n'ont rien inventé. Balzac déjà critiquait les médias. Ça a toujours été, dès que la presse est apparue, la critique de la presse s'est développée.
Là, c'était une critique qui avait, à mon sens, deux particularités. D'une part, elle donnait les noms de ceux qu'elle ciblait. Vous pouvez tout à fait faire une critique des médias qui vous rendra respectable de tout ce que vous appeliez tout à l'heure les médiacrates, si vous demeurez dans le domaine des généralités en disant l'information va trop vite, les choses sont de plus en plus complexes, le monde change. Bon, ça, effectivement, ça ne gêne à peu près personne. Si vous dites un tel a dit telle chose à telle heure et ce qu'il a dit était faux ou était le produit de ses préjugés, probablement ou peut-être induit par le fait qu'un tel gagne tant d'argent et que donc quand il trouve que le salaire minimum est trop élevé, ce qu'il trouve trop élevé, c'est une somme qui correspond à 1/40 de ses revenus habituels. Bon, ça situe un peu à la fois le personnage et ça situe la critique. Donc ça, je crois que c'était la caractéristique du livre de Pierre Bourdieu, d'une part, sur la télévision, où il y avait un certain nombre de noms qui étaient donnés, en passant, mais ça suffisait pour les rendre furieux et pour obliger tous ceux qui étaient en quelque sorte les colporteurs de la pensée de ces gens-là, de ce que Pierre Bourdieu appelait les fast thinkers, à repousser le livre en bloc. Et je pense que la deuxième caractéristique de ces ouvrages, c'est qu'ils ont décidé de se faire connaître, d'être lus, sans avoir recours au tintamarre médiatique, sans essayer de passer partout dans les médias pour faire parler de cet ouvrage. Vous évoquiez le tirage des nouveaux chiens de garde. Il est vrai qu'un tirage de ce niveau, sans que l'auteur ait fait une seule émission de télévision, c'est, je crois, sans précédent. Et pour moi, à mon sens, c'était la démonstration qu'on pouvait encore, en France, diffuser des idées sans avoir recours au canal médiatique et sans se plier aux injonctions des journalistes dont on a besoin ensuite pour faire connaître les idées qu'on a rédigées. Et c'est évidemment une difficulté particulière quand vous écrivez un livre critiquant le système médiatique et que vous êtes partout dans les médias. On vous dira aussitôt, ben vous voyez bien que le système médiatique n'est pas aussi critiquable que vous le suggérez puisque vous avez eu la parole. Où on dira, vous voyez bien que le système médiatique, vous le critiquez beaucoup, mais vous aimez bien avoir recours à lui quand vous en avez besoin. Donc, en quelque sorte, vous crachez dans la soupe. Donc, pour, en quelque sorte, s'affranchir de ces deux critiques, il me semble que la décision que nous avions prise d'éviter au maximum les grands médias, de choisir nos émissions, de participer à des émissions qui, à notre sens, menaient elles aussi le combat que nous essayons d'animer, c'était important.
Serge Halimi, en 1997, publie « Les nouveaux chiens de garde ». On va voir comment ça a été reçu du côté des journalistes, parce qu'ils n'ont pas tellement apprécié, en général, hein, ce livre, cette démarche de Bourdieu, la vôtre, et puis tout ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui Acrimed, qui continue cette critique des médias, Acrimed, critique des médias. On a eu PLPL, devenu le Plan B, qui a développé des critiques extrêmement sardoniques, acerbe et précise du monde des médias, avec effectivement des noms, avec des personnages qu'on va retrouver dans le film dont on va parler. Mais je voulais savoir, du côté des journalistes, comment ça a été reçu. Et Michel Naudy, qui est au fond de l'Ariège, dans son placard, a peut-être un point de vue là-dessus. Michel Naudy.
Oui, je pense que le pluralisme de la presse s'est réduit dans des proportions considérables. Je crois qu'il y avait, à la Libération, 70 quotidiens nationaux. Combien reste-t-il ? Bien sûr, certains étaient des organes d'expression politique. L'Humanité, Le Populaire, quelques autres, bien sûr. Mais cependant, on était en mesure de trouver, malgré tout, dans le champ média, un nombre d'informations que l'on pouvait recouper, rendre contradictoires, et s'informer en homme libre. Aujourd'hui, en dépit d'Internet, qui est un attrape-nigaud de mon point de vue, je crois que tout ça est terminé. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à un corps commun idéologique. Donc les journalistes aujourd'hui, le propos du film leur est absolument intolérable. Et d'ailleurs, il n'est que de voir le filmage de l'entrée au dîner du siècle. Il y a l'acteur qui s'en sort à peu près, c'est Slama, parce qu'il fait un peu d'humour. Mais regardez les autres, ils baissent la tête. Ils tournent les yeux. Ils ont des difficultés à passer devant les caméras. Comme si leur présence là, et c'est pour ça que la scène est magnifique, dénotait absolument leur compromission idéologique et financière. Il ne faut jamais oublier ça.
Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce.
Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets, et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations.
Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu ? C'est le joyeux mélange. Journalistes.
Frédéric Lordon.
Faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, hein, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde et comme poisson dans l'eau et copain comme cochon.
Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française.
François Denord.
Une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et à minimum ne pas aller contre ce qui serait ses intérêts politiques et économiques évidents.
Ces gens sont bien payés.
Michel
Ils sont Naudy. Payés en gratification sociale. Ils sont de tout ce qui est important dans la vie et ils ont le sentiment de faire la politique.
De faire de la pédagogie, ça c'est très bien.
D'expliquer aux masses populaires abêties ce qu'il faut penser, ce que l'on doit penser des choses. Et d'ailleurs, leur faillite fondamentale s'est avérée à l'occasion du référendum européen de 2005. 90% du commentaire politique, voire des expertises politiques, était favorable à ce traité que le peuple a décidé autrement.
Michel Naudy, vous êtes un journaliste expérimenté, avec une analyse qu'on entend. Lorsque on vous fait venir dans une école de journalistes, je suppose que ça vous arrive, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes têtes blondes qui veulent faire le métier d'Albert Londres ?
Je leur dis, voilà, j'ai une image, je leur dis, voyez, tout pouvoir induit son propre secret. Pouvoir politique, pouvoir syndical, pouvoir associatif, tout pouvoir produit du secret. Nous, notre métier, parce que nous sommes des gens modestes, c'est enlever une pelure à l'oignon. Voilà ce que je leur dis.
Et ils comprennent
conscient que c'est inépuisable, c'est un travail inépuisable.
Alors, Gilles Balbastre, comment tout ça est devenu un film? Parce que ces sujets-là, on en a souvent parlé dans La Basse, j'y suis. On est revenu là-dessus assez souvent. La critique des médias. Comment est-ce que tout ça est devenu un film, et un film avec une grande distribution? Est-ce que vous êtes tourné vers les télés, vers... Comment vous y êtes pris?
Je voulais rajouter juste un petit point à ce qu'a dit Serge Halimi sur la différence peut-être de l'écriture de son livre avec les critiques récurrentes qu'il a pu avoir dans l'histoire sur les médias. Je pense aussi que ce qui a distingué cette critique à partir des années 95, c'est aussi une critique politique, idéologique d'un système. Ça inscrit quand même la critique des médias dans une critique idéologique plus vaste d'un système, en liant quand même ces journalistes, ces chiens de garde, à la défense d'un pouvoir en place, d'un pouvoir capitaliste, il faut dire le mot, hein, avec tout ce que ça veut dire, ben, pour le peuple, pour les salariés, pour la majorité des citoyens qui se retrouvent ben, là où ils en sont actuellement, en Grèce, en Italie, en Espagne et en France bientôt et déjà.
C'est dit d'ailleurs dans le film, ouais. Le vrai pouvoir stable, c'est le pouvoir du capital. Voilà. Il est normal que le pouvoir du capital s'exerce. Qui dit ça dans le film?
C'est Fogg, François-Olivier Gisbert.
Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça c'est le vrai pouvoir. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce.
C'est Franz-Olivier Gisbert qui vend la mèche, enfin qui dit les choses clairement, il a le mérite au moins de dire les choses
très clairement. Qui à l'heure actuelle est le PDG du Point, c'est-à-dire que le vrai pouvoir du capital au Point, c'est le pouvoir de François Pinault qui... à ma connaissance, c'est la troisième ou la quatrième fortune de France.
Et effectivement, le dîner du siècle pose aussi l'acquaintance, la connivence, la proximité de ces chiens de garde avec le régime politique, le pouvoir politique et économique en place. Et ça, c'est important. Il y a une critique idéologique des médias. Voilà. Donc, le deuxième point, c'était qu'est-ce qui a aussi différencié, je dirais, notre regard et le travail de Serge et d'autres, c'est que... pour ne pas aller dans les médias, ils sont allés à la rencontre aussi des militants. Et ils ont multiplié les conférences, les rencontres, les débats, qui a permis aussi d'aller faire un travail militant, de relever les manches et d'aller à la rencontre directe des gens plutôt que de passer uniquement par les médias. Comme si au fond, les médias, passer dans les médias, ça pouvait atteindre les gens. Moi, je dis toujours, il n'y a jamais eu autant de médias, en tout cas de télévision. Michel parlait effectivement de la diminution de titres de quotidien, mais en même temps, il y a une multiplication des télévisions et des radios. On n'a jamais autant régressé politiquement, socialement. C'est bien la preuve, effectivement, que l'ensemble de ces médias qui sont actuellement manquent de pluralité totale et privilégient un seul pouvoir.
En matière de transfert de journalistes, l'hiver 2010-2011 a donné lieu à un mercato digne des meilleures saisons de football. C'est Jacques Julliard qui ouvre le bal. Déçu par Denis Oliven, il part du Nouvel Observateur pour rejoindre Marianne. Laurent Geoffrin, lui, lâche Libération pour prendre la place de Denis Oliven. Car ce dernier quitte le Nouvel Observateur pour aller diriger Europe 1 à la place d'Alexandre Bompard, qui lui est en partance pour la direction de la FNAC, que le même Denis Oliven avait quitté quelques mois plus tôt. Juste après les fêtes, Nicolas Poincaré, venu de France Info, débarque à Europe 1 pour succéder à Nicolas Demorand, qui prend, lui, la tête de Libération. Et c'est Arlette Chabot, partie de France 2, qui devient la nouvelle directrice de la rédaction d'Europe 1. Au même moment, Éric Istralevitch, après être passé par Les Échos et La Tribune, revient au Monde prendre la direction du journal à la place d'Éric Fotorino. Ainsi se construit le pluralisme de l'information. Au travers des parcours croisés d'une poignée de journalistes interchangeables qui sont chez eux partout.
Couché. Assis. Debout.
Alors Gilles, comment est-ce que tout ça, tout ce que vous dites là, les uns et les autres, est devenu ce film qui sort donc mercredi.
Alors ce qui est important effectivement, c'est de noter d'abord le travail collectif. Vous avez eu raison de dire que ce film est né d'un collectif qui est né lui-même autour des années 95. Hein, donc pourquoi 95? Parce que c'était, rappelez-vous, la lutte contre la réforme Juppé. Hein, et il y a eu une couverture médiatique vraiment particulière, très partiale. Et de cette couverture médiatique est née une réflexion, un groupe autour de Pierre Bourdieu, mais de syndicalistes, de citoyens, d'intellectuels. De là est né Acrimed, vous avez raison. Le monde diplomatique a participé, les articles de Serge, bien sûr. Il y a eu PLPL, le plan B, il y a eu Fakir, il y a eu François Ruffin, il y a eu tout un groupe, peut-être parfois différent, hein, avec certaines idées différentes, mais avec le même fond de critique. Voilà. Et ce film est le résultat de ce collectif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'effectivement, ce collectif produisait et cette production est lue, écoutée et regardée, notamment par un producteur qui s'appelait Jacques Kirchner, qui possède une boîte qui s'appelle J'aime Productions. Et ce producteur est venu rencontrer des gens de ce collectif pour leur dire, voilà, je considère que les médias sont un danger pour la démocratie. C'était autour des années 2007, avant que Sarkozy soit élu. Et je veux faire un film là-dessus, sur les médias.
Et vous lui avez sauté au cou?
Oui, parce que on s'attendait pas à ce qu'un producteur avec les poches pleines d'euros, même s'il n'avait pas tant que ça, surtout qu'il a eu aucune aide pour faire ce film, aucune aide du CNC, aucune aide de...
Vous avez fait les démarches ou ça vous a été refusé?
On a fait les démarches et ça a été refusé. Et donc ce producteur a mis
des motifs du refus?
Oui, pas assez cinématographique, surtout là-dessus, effectivement. Ce qui permet, si vous voulez, de ne pas se positionner d'une façon idéologique, de renvoyer ça sur le côté, au fond, qualité cinématographique et d'éviter le problème. Voilà. Le producteur a avancé ses sous, tous les sous. Il a mis de sa poche pour réaliser ce film. On a mis un peu de temps, du coup, pour le faire, mais on l'a fait.
Vous avez 2 ans de boulot?
Plus, parce que si on prend la genèse autour de 2007, vous voyez un peu le temps. Effectivement, je ne vous dis pas qu'on travaille depuis 2007, mais on a travaillé facilement 2 ou 3 ans. En plus, il y a eu après la crise qui est arrivée, celle de 2008, qui a un peu repositionné notre écriture, parce que cette crise arrivée était en même temps intéressante et il fallait la prendre en compte. Donc ça a mis un certain
temps. Dans quelle mesure il fallait la prendre en compte? Parce qu'il y a un moment où toutes ces idées que vous décrivez, que vous faites commencer en 95, en 2008... Lorsque cette crise apparaît, qui continue aujourd'hui, tout d'un coup, tout ce courant idéologique, on va l'appeler comme ça, prend un sens particulier.
Mais oui.
Tout d'un coup, c'est un petit peu comme si on avait tous envie de dire « bah oui, on l'avait bien dit, quoi ».
Et en plus, c'était la démonstration flagrante que tout ce qu'on nous bassinait de façon économique, de façon politique depuis des années, qu'il fallait réformer l'État, qu'il fallait moins d'acquis, qu'il fallait faire attention à l'État social, qu'il fallait revenir un peu sur la sécu, sur les retraites, etc. Que tout ce modèle économique libéral prôné par tous les experts, les chiens de garde, les éditorialistes, les présentateurs vedettes à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, tout ce système-là a mené droit dans le mur, et pas droit dans le mur gentiment. Parce que derrière, et ceux qui ont fait l'apologie de ce système, on peut peut-être dire qu'ils ont un peu de sang sur les mains. Faut peut-être aussi pousser le bouchon à ce stade. Parce que les millions de chômeurs en plus, les dizaines de millions de pauvres et de gens qui vont crever à la suite de cette dérégulation de l'économie à cause du système libéral, parce que c'est des dégâts immenses au niveau du monde. Au bout d'un moment, quand vous faites l'apologie idéologique de ce système-là, vous pouvez vous poser des questions sur votre responsabilité. Et effectivement, ça a appuyé d'autant plus notre propos. Ça l'a orienté aussi un peu plus au niveau économique. Il y a toute une partie, et Jean peut en parler, autour de l'expertise économique. Les Menck, les Godet, les Lorenzi, les De Boissieu, les Elie Cohen, Daniel Cohen. Toute cette armada d'experts qui nous ont expliqué ce qu'il fallait faire et où il fallait aller, nous ont amené droit dans le mur avec leur système économique.
Je pense que non seulement ça nous a amené à la crise, mais ensuite ça a expliqué la crise. Ce sont ceux-là même qui ont provoqué la crise, qui ont été chargés de l'expliquer. Et puis ensuite, ils en ont profité en disant que du fait de la crise, il fallait aller encore plus loin dans la voie des réformes qui avaient provoqué la situation économique dans laquelle on se trouvait.
Alors, Jean Gadret, on va vous donner la parole quand même. Vous êtes économiste, prof émérite d'économie. Vous êtes intervenu dans nos émissions précédentes avec François Ruffin sur la connivence, ce que vous appelez les liaisons dangereuses entre ces experts économistes et les forces de l'argent, les puissances de l'argent, disons, pour caricaturer un peu. Et vous intervenez avec d'autres dans les nouveaux chiens de garde. Comment vous voyez effectivement ce virage important quand même de 2008?
Alors, moi, je pense que j'ai été recruté par Gilles Balbastre avec Frédéric Lordon, un peu comme l'économiste de service
hétérodoxe,
devant mener la charge contre certains de ses collègues. Et je l'ai fait avec d'autant plus de plaisir que ça fait très longtemps que ce thème m'est cher et je le crois très important. Au fond, il y a une partie du film qui est consacrée au rôle des économistes dans la crise et principalement dans l'information sur la crise, dans les analyses de la crise. Avec deux questions qu'on est conduit à se poser. Premièrement, pourquoi toujours les mêmes? C'est-à-dire les mêmes experts économistes invités par les grandes chaînes, les grandes rédactions, disant à peu près tous la même chose. Et puis, deuxième question qu'a évoqué Serge Halimi, pourquoi sont-ils aussi constants dans l'erreur en cas de crise grave? Ce qui n'empêche pas qu'on les réinvite. Alors moi, je pense que la réponse tient en deux types d'explications. La première porte sur le contenu de ce qu'ils disent. Au fond, on peut leur faire confiance pour ne pas franchir la ligne rouge, comme disaient certains, pour ne pas dénoncer le système de la profitation. Et puis la deuxième raison, et c'est là que je crois que le film de Gilles est particulièrement original, c'est que c'est pas seulement une question de contenu, c'est que s'ils disent cela, c'est en grande partie parce qu'ils sont insérés de façon organique et rémunérée dans le système financier qu'ils sont supposés analyser et critiquer. Et donc,
Là, je vous arrête un instant.
Oui, je vous en prie.
Il y a une séquence avec tous ces experts économistes dans le film, mais il y a un portrait de Michel Godet
qui est particulièrement gratiné.
Et c'est vrai que ça fait partie de ces personnages qu'on connaît tous. C'est comme un bruit de fond qui nous accompagne depuis une trentaine d'années.
Oui.
Ce gars-là revient tout le temps avec cette même musique, ces mêmes propos, ces mêmes...
Il faut travailler plus.
Et la séquence du film qui est effectivement très frappante, c'est une séquence où on voit Michel Godet vieillir à l'antenne, disant année après année les mêmes phrases.
Dans un monde qui change, il faut changer aussi les règles du jeu.
Michel Godet.
Et c'est un facteur de crise. Si on veut essayer de continuer avec nos règles du jeu social...
1984.
Nos conventions collectives, nos habitudes... Nos petites habitudes, entre guillemets, dans ce monde qui a changé, il faut accepter éventuellement de reconsidérer qu'on sera libre le mercredi, mais qu'il faudra peut-être travailler le samedi. On veut rentrer dans l'avenir.
1993.
Avec des conventions collectives qui ont été écrites en 1945, voire en 1909, quand il s'agit du statut des cheminots. Donc je crois que dans ce monde qui change, il faut aussi changer nos règlements. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures travaillées au long de sa vie. Et par combien de personnes? C'est la quantité de travail.
1998.
Or, en France, si on continue à avoir si peu de gens qui travaillent moins qu'ailleurs, on cumule tout et qui partent plus tôt, ben, le compte n'y est pas. Et dans la plupart des autres pays...
2003.
Où les pays où le taux de chômage est plus faible qu'en France, c'est des pays où il y a plus de gens au boulot et où les gens travaillent plus longtemps. Comme je l'ai dit, moi, dans mon jargon simple, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Il faut travailler plus tôt, il faut travailler plus tard, à temps partiel.
2004.
Et un peu plus de souplesse et de pluralisme dans tout ça. C'est un système monolithique, tout le monde marche au pas, et je crois que c'est ça qu'il faut casser. Ouais. Donc on n'a pas assez de gens au boulot.
2007.
Notamment parmi les jeunes et les plus anciens qu'on met à la casse. Et en plus, chez nous, ils ne travaillent pas assez. C'est l'activité qui crée l'emploi.
Michel Godet, on le voit aussi sur une autre séquence, protester contre le niveau extraordinaire du salaire minimum.
C'est ça, là il est radical.
Du salaire minimum qui évidemment détruit l'emploi. Et on le voit ensuite profiter d'un ménage, faire une conférence devant une entreprise qui le paie pour parler. Et quand on a la confrontation entre ses revenus tirés de son travail approximatif et les revenus de ceux qui touchent le salaire minimum, la pédagogie est faite.
Ces gens-là ne font pas seulement des ménages. Au sens journalistique du terme, certes, ils en font. Ils font des conférences, par exemple, qui peuvent être payées de 5 000 à 20 000 euros. C'est quand même pas négligeable. Mais ce point qui me paraît peut-être le plus problématique, des fonctions permanentes de conseiller de direction, de conseiller scientifique dans les banques, dans les compagnies d'assurance, dans les multinationales. Et donc, la question doit être posée dans ce domaine d'un conflit d'intérêts. pourquoi et comment un directeur de banque comme Olivier Pastré ferait-il partie de l'autorité des marchés financiers ? Jusqu'à quel point l'autorité des marchés financiers peut-elle avoir une autorité sur les marchés financiers si les marchés financiers sont à l'intérieur ?
Si on réforme tout ça, on dit d'accord, on va mettre ces gars-là de côté, on améliorerait le système, on améliorerait les choses, on présenterait les choses différemment. Est-ce que vous pensez que ça suffirait ? Gilles Balbas.
Vous êtes dur là, parce que effectivement, vous voulez que je vous dise quoi ? Par les temps qui courent, que la réforme, ça ne sert pas à grand-chose, et que dans ces cas-là, il faudrait avoir une autre posture. Dans ces cas-là, on en fait 2 ou 3 émissions, mais là, il va falloir un peu de temps pour expliquer pourquoi, effectivement, la réforme ou quelle réforme peut être un replâtrage d'un système. C'est évident, premièrement, que ce système ne lâchera pas. Enfin, ces chiens de garde sont là pour mordre ceux qui vont franchir la ligne et protéger ceux qui ont intérêt à être protégés. Et protéger quoi ? Leurs intérêts capitalistiques. Donc voilà, on en est là. Alors, il faudrait autre chose qu'une réforme pour effectivement avancer. Alors, si on veut même peut-être un peu réformer, allez, allons-y. Il y aurait peut-être des cadres à remettre en place. On a parlé depuis quelques années de la dérégulation du marché de l'électricité, des transports, de la santé, l'éducation. On n'a jamais parlé réellement de la dérégulation du marché de la presse. Alors qu'il y a eu ces 30 dernières années une sacrée dérégulation libérale du marché de la presse. Il y a des lois qui ont été posées, qui ont permis cette dérégulation. Des lois notamment posées par les socialistes, hein, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. Les deux premières chaînes de télévision privées, d'abord c'est Canal+, mis en place par Mitterrand, et derrière c'est la 5 donnée à Berlusconi. La 5 en 85 qui est donné à Berlusconi, parce que c'est un copain des socialistes à l'époque, de Craxi italien, qui a fini sa carrière en Tunisie, parce qu'il était poursuivi pour ses alliances avec les mafieux locaux. C'est ça la réalité. Et donc, il y a de privatisations mises en place de deux chaînes privées, la 5 et la 6. Il y a la privatisation d'Europe 1 qui est donnée à Lagardère, par les socialistes encore à l'époque. Hein. Le ministre Georges Filloux vient de mourir, là, ce ministre de la Communication qui a œuvré, au fond, sous les ordres de Mitterrand à l'époque. Après, la droite a rajouté une couche avec la privatisation de TF1 en 87. Il y a eu la loi Carignon en 94 qui a permis la concentration, qui a autorisé cette concentration et le fait qu'un propriétaire peut posséder plusieurs médias. Il y a eu aussi les journalistes qui ont eu de moins en moins de pouvoir. Rappelez-vous Le Monde ou Libération, les journalistes avaient droit de veto, pouvaient peser. Ils ne peuvent plus peser actuellement. On est en train de parler de l'évaluation actuellement des enseignants par leur chef d'établissement. Vous voyez ? Qu'est-ce que vont devenir les salles de professeurs dans 10 ans si cette évaluation directe par le chef d'établissement a lieu ? Eh bien, ça sera des salles de professeurs aussi vassalisées que les rédactions parce qu'ils n'auront pas de pouvoir de mise à distance de cette hiérarchie, de ces chiens de garde. Bourdieu disait que c'est bien beau de mettre l'éthique des journalistes en avant, mais l'éthique seule, comme ça en bandoulière, sans loi, sans cadre, ne sert à rien. Donc déjà, là, on est dans la réforme. Vous savez, c'est même pas foutre en l'air le système capitaliste, ça serait déjà protégé. C'est ce qu'on fait le Conseil national de la résistance en 1944 et ils n'ont pas mis à mal le capitalisme en entier, ils ont simplement donné des moyens pour protéger les journalistes. Comme en 51, les politiques ont mis en place un statut des enseignants pour les protéger, leur remplir leur mission laïque et les protéger des pressions religieuses, politiques et marchandes. Et au fond, tout ça a explosé. Donc déjà, on pourrait faire ces réformes-là, remettre de la possibilité d'indépendance des journalistes, de la possibilité de pouvoir peser face à une direction qui fait ce qu'elle veut.
Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin.
Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça ?
C'est excellent.
Et ça n'existait pas de votre temps ?
Ben, ça existait, le marché a toujours existé.
Mais je veux dire.
Mais il valait mieux pas s'en vanter.
Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter. Ben... Oui. Alors.
L'histoire montre que le capitalisme, ça marche.
Qu'est-ce que c'est un marché financier ? Un marché financier, c'est comme, je le dis dans le livre, c'est un peu comme le marché de Cavaillon, où il y a des gens qui viennent avec des melons et d'autres qui viennent avec des poulets. Et on échange des melons contre des poulets.
Assez ! Bonjour, Christian de Boissieu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, on va parler d'une autre forme d'achat de Noël, c'est-à-dire les produits financiers, le bas de laine.
S'il y a beaucoup de poulets et pas beaucoup de melons, c'est à l'avantage du producteur de melons.
Est-ce que le PS devient réformiste ?
Oui, enfin !
Christophe Barbier.
Oui, alors il faut attendre l'article 13 quand même de la déclaration de principe, mais c'est écrit, le Parti Socialiste est désormais dans le marché, dans la mondialisation. quelque part entre social-démocratie et social-libéralisme.
Dans le genre l'éthique des journalistes, la déontologie des journalistes et le courage et le poids que les journalistes aussi peuvent avoir ou ne pas avoir sur le média dans lequel ils travaillent, on a un assez joli exemple avec le numéro du Figaro d'il y a quelques jours, ou d'hier ou d'avant-hier, avec les vœux du propriétaire du journal, Serge Dassault. Ça vous a sans doute pas échappé. On peut se demander la tête d'un journaliste ou d'un rédacteur de ce journal lorsqu'il ouvre son journal dans lequel il travaille et qu'il cautionne par son travail en lisant l'édito de Serge Dassault.
Oui, c'est un l'intéressant dans cet édito qui présente donc les vœux de Serge Dassault aux lecteurs du Figaro, qui leur annonce que les urgences sont la suppression de l'impôt sur les fortunes. Serge Dassault est la sixième fortune de France. L'augmentation de 3% de la TVA, l'amnistie fiscale et surtout la réélection de Sarkozy. Alors là, il faut citer le passage parce qu'il est magnifique. Seul celui qui ne s'est pas encore déclaré parce qu'encore président sera crédible, car il est le seul à demander la mise en place immédiate de la règle d'or, le seul à bien connaître notre situation financière, le seul à pouvoir la régler par des mesures appropriées, le seul à mettre en place les moyens nécessaires pour réduire le chômage. Lui seul pourra sauver la France et les Français de la faillite. Point d'exclamation. Et là, je soupçonne que les correcteurs...
Ça fait quand même du bien d'entendre, oui, Serge Halimi interpréter pour vous, chers auditeurs, un texte de Serge Dassault.
Non, et je soupçonne que les correcteurs ont fait exprès de laisser passer ce texte avec ses lourdeurs de style parce qu'il est très mal écrit. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas seulement ce qu'il dit, c'est le fait que ce texte soit signé Serge Dassault, président du Figaro. Jusqu'à présent, les propriétaires de presse étaient effectivement propriétaires de leurs journaux. Mais il chargeait en général les directeurs de la rédaction d'écrire les éditos. Vous n'avez pas dans Le Point les éditos signés François Pinault ou dans Les Échos les éditos signés Bernard Arnault. Là maintenant, c'est un édito qui est signé par Serge Dassault, qui est le propriétaire du Figaro, qui prend donc la place du directeur de la rédaction, qui s'était plus ou moins engagé auprès des journalistes à ne pas intervenir et à ne pas écrire dans Le Figaro, qui le fait ouvertement puisqu'il signe l'éditorial. Et à un moment même dans son texte, il signale « Si vous souhaitez que l'on élargisse le champ de nos informations, n'hésitez pas à me le dire. » À moi, le propriétaire du Figaro, pas au journaliste, pas au directeur de la rédaction. Et je soupçonne que pour les journalistes du Figaro, et il y en a de très bons, notamment dans les pages de politique internationale, ça doit être tout de même une douleur d'être publié dans un journal où il y a un éditorial aussi mauvais, aussi partisan, qui est imposé par celui qui a l'argent qui lui a permis d'acheter le journal.
Aux dernières élections professionnelles au Figaro, le SNJ-CGT a gagné beaucoup de voix. La réponse est peut-être là. C'est les journalistes du Figaro, même peut-être ceux de droite, commencent à voter SNJ-CGT. C'est peut-être une bonne chose, non ? Ça commence à bouger.